Bonjour à tous, Ludovic Malo, vous êtes sur France Liberté. Mon invité aujourd'hui est Arnaud Aron-Upinski. Je rappelle que vous êtes mathématicien, épistémologue, linguiste, historien des sciences, chercheur en théologie et expert en système logique. Vous avez étendu la grille de lecture de vos recherches pour démonter les mécanismes secrets du langage du pouvoir, décrypter son double jeu et réarmer l'intelligence en lui permettant de se réapproprier ses instruments de pilotage pour le contrer. Ce thème n'a jamais été autant d'actualité. Vous allez nous en dire plus aujourd'hui sur le sujet central de la secte franc-maçonnique en France. Je rappelle que vous avez écrit plusieurs livres aux éditions du BIEF, 2 plus 2 égale 5, de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société, La perversion mathématique, l'œil du pouvoir, Clé pour les mathématiques, La science à l'épreuve du linceul, La tête coupée, le secret du pouvoir, qui est votre ouvrage majeur. Enquête au cœur de la censure. Et enfin, Macron, le président ventriloque, la figure du roi et la magie politique en 2017. Arnaud Upinski, bienvenue à France Liberté.
Merci, bonjour.
Avant de poursuivre, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie. Et très important, abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube de France Liberté et inscrivez-vous sur notre liste de contacts sur franceliberté.tv. Et enfin, rejoignez le canal de France Liberté sur Telegram. Alors, Arnaud Upinski, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview avec nous. On a eu l'occasion à plusieurs reprises de parler de sujets très brûlants. Là, on va parler principalement de la franc-maçonnerie. Dans la lignée du carême initiatique à l'art royal et la magie noire, nous sommes au cœur du langage, votre domaine d'expertise. Vous dénoncez la puissance de feu intellectuelle dont dispose la franc-maçonnerie pour fabriquer mots, concepts, doctrines permettant de gouverner les esprits et les aveugler. Au cœur de cet aveuglement est la déclaration des droits de l'homme. En quoi ce langage symbolique est la clé du plafond de verre de la secte franc-maçonnique?
Ce que je voudrais dire, c'est la question de la franc-maçonnerie est un sujet extrêmement difficile, tabou. Beaucoup de livres ont été écrits sur le sujet, mais la grande question, c'est de ne pas rentrer dans le sujet n'importe comment. C'est-à-dire que jusqu'à présent, alors que j'écris de plus de égal 5, depuis 1977, je n'avais fait qu'effleurer la question de la franc-maçonnerie et j'ai l'habitude, quand j'aborde un sujet, de l'aborder à l'occasion d'une rencontre, si je peux dire, d'une rencontre, d'une nécessité, parce qu'il ne s'agit pas de répéter ce que disent les autres, il ne s'agit pas de compiler, il s'agit de faire œuvre utile, bien entendu, et novatrice. Et donc, c'est très important, de comprendre pourquoi je suis amené, d'une part, à étudier la franc-maçonnerie et aller jusqu'au bout, du bout de l'explication qui n'a jamais été donnée jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, la question de la franc-maçonnerie est attaquée ou bien d'une manière polémique, ou bien d'une manière très ésotérique. Et moi, je l'attaque par la question, si je peux dire, de la méthode, et j'allais dire de la question scientifique, je dirais même morée géométrico. Donc, pour aborder ce sujet, si je ne veux pas rentrer dans les ornières qui m'ont précédé, si je peux dire, et vous l'avez très bien dit, c'est à l'occasion du carême initiatique à la magie noire et à l'art royal, donc faisant suite, disons qu'à mon livre sur la magie, puisque j'ai introduit le sujet de la magie politique, et non pas par hasard, là encore, mais parce que Macron a dit, la politique, c'est un style, c'est une magie. Bon, et je constate que, alors que mon livre, qui est ici présent, si j'ose dire, est sorti depuis l'élection de Macron, aucun journaliste n'a traité le sujet. Et là, on est au cœur du drame du plafond de verre. La magie fait partie, bien entendu, du plafond de verre. C'est que tous ces gens qui parlent et déparlent, ces faiseurs de mots, et qui parlent évidemment de liberté d'expression, de débat démocratique et autres, lorsqu'on leur donne l'explication clé de Macron, et nous aurons peut-être l'occasion d'en parler, de ce qui fait son pouvoir par le langage ventriloque, effectivement, eh bien, personne ne suit. Donc, c'est ce que je voulais dire en introduction, c'est que à quoi ça sert-il de dire les choses si cela ne se traduit pas dans l'espace public, ce n'est pas traduit, disons, démocratiquement, entre guillemets. Alors, le prérequis pour aborder ce sujet, Bien entendu, tout le monde attend que je donne le secret du secret du bout du secret, mais il faut commencer par avoir un engagement personnel. Bon, c'est-à-dire que c'est une certaine attitude. Pour comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie, il faut rentrer dans une démarche. Cette démarche, elle est initiatique. Et l'initiation, ce n'est pas comme une information. L'initiation, elle engage toute la personne. Donc, en Afrique et dans tous les peuples, il y a toujours une phase initiatique. Pour faire simple, c'est quand on devient un homme, où l'initiation, elle est religieuse. Et pour la franc-maçonnerie, évidemment, il y a une initiation. Il y a des degrés. C'est-à-dire que, on ne vous apprend pas tout du premier coup. Et justement, c'est une des raisons, qui fait qu'il va falloir expliquer pourquoi il y a ces degrés. Et bon. Et alors, en plus, il y a cette question, il faut rentrer dans une question de valeur morale. On n'est pas dans une information. Dans une information brute, il fait beau. Non, c'est un engagement moral. Et la morale, c'est le guide de l'action. Ensuite, il faut s'engager. Il faut un minimum de connaissances. C'est pour ça que j'ai lancé cette initiation, je rappelle, à la magie noire et à la royale. Voilà le grand secret du langage qu'on n'est pas cité pour triompher de Macron à Pâques. Bon, et ça, c'est très important. Pourquoi fallait-il triompher? Et est-ce que finalement, j'allais dire, cette magie que j'ai mise en œuvre a abouti? Et il faut être prêt un coup. C'est-à-dire que pour comprendre ce qu'est, disons que la franc-maçonnerie, notamment, c'est comme pour les mathématiques, et moi je l'aborde du point de vue mathématique, eh bien, il faut faire un effort. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que ça rentre par une oreille et que ça sorte par l'autre. Il y a un coup à payer. Alors effectivement, dans mes degrés d'initiation, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais parfois il faut reprendre, il faut écouter, il faut réfléchir, et on peut passer au deuxième degré en principe que si on est passé par le premier degré. Alors, il y a un point de départ aussi. Le point de départ, c'est vrai que Confucius disait, on ne peut pas s'entendre et parler si on ne s'est pas entendu sur des valeurs communes, sur l'objet du débat. Bon, et là, pour rentrer dans cette question de la franc-maçonnerie, pourquoi est-ce que je l'aborde? Eh bien, c'est parce qu'il y a un vide total de vérité. La vérité est interdite actuellement. J'en ai parlé. Alors, la question, c'est comment se fait-il que la vérité soit interdite? Même, vous savez que la presse allemande, pendant cette question du coronavirus, a dit c'est l'absurdistan. Donc, on est dans une situation qui n'a jamais été vue, une époque extrêmement prétentieuse. Tout le monde a le bac maintenant, n'est-ce pas? Tout le monde sait tout. Et pourtant, la vérité est interdite. Donc, pour comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie, la première étape, c'est de se dire effectivement de reconnaître que la vérité est interdite. Il y a deuxième étape, donc absence de vérité, il y a l'absence de conscience. Il n'y a aucune conscience morale actuellement, aucune conscience. Aucune conscience personnelle, tout le monde s'étourdit, le bruit, le bruit, le bruit, on est constamment. Mais il n'y a pas, tout est fait pour nous empêcher d'avoir une conscience. J'entends par une conscience morale. Il y a la loi qui nous oblige, et puis après, il n'y a plus de conscience.
Alors
Ça, c'est
justement, vous dénoncez, vous accusez la franc-maçonnerie d'être contre les valeurs consubstantielles chrétiennes du modèle français, contre les commandements, contre la France, contre sa morale pérenne depuis Clovis. C'est là où vous voulez en venir?
Non, 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 ça c'est la fin. On en est au tout début, hein. On y viendra si vous voulez, mais c'est cette idée, si vous voulez, que, effectivement, bon, je le dis tout de suite, évidemment, on va y venir sur pourquoi est-ce qu'il faut savoir ce qu'est la franc-maçonnerie, pourquoi est-ce important. Bon, donc, de conscience, et à troisièmement, on a une époque, une absence de courage, donc il faut, pour s'engager dans la question de la franc-maçonnerie, avoir une volonté de changer. Ça, j'y vais. Alors ensuite, pourquoi est-ce qu'il faut comprendre ma démarche? Je ne suis pas là pour critiquer, pour accuser, pas du tout. Je suis en train d'expliquer comment ça marche. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, ça c'est la méthode scientifique. Il y a un plafond de verre. Bon, il en a été question pendant ces élections présidentielles. Ce qui est important, c'est de comprendre comment ça marche. Et j'ai commencé à dévoiler le secret, si je peux dire, des maths modernes, quand j'ai vu qu'on détruisait l'intelligence. Hein, ça, c'était l'alpha, je peux dire, de mon engagement. Et je me suis demandé pourquoi. Alors, je ne vais pas tout rappeler, mais vous avez cité un certain nombre de livres. Et puis, on nous a amené à Macron, le président ventriloque. La royale et la magie politique. Alors là, on rentre dans la magie et on va revenir sur la question après la franc-maçonnerie. Il y a un truc. C'est-à-dire, quand vous avez toute une population, excusez-moi de le dire, qui est complètement abétie, ça ne veut pas dire qui est totalement abétie au sens politique du terme, il n'y a plus aucune intelligence politique. Quand vous dévoilez des choses, et là, c'est ce que je fais sur la franc-maçonnerie, nous allons en parler, qui sont, je veux dire, gigantesques, personne ne bouge. Donc, comment se fait-il qu'il y ait ce charme, on peut dire, cette magie qui fait que les Français n'existent pas au plan moral, au plan intellect, etc. Certes, ils agissent comme des fourmis, comme des insectes. Chacun, il y en a qui conduit son camion, qui porte cette chose, qui réalise des tâches élémentaires qu'on appelait autrefois mécaniques chez les Grecs, mais dès qu'on monte sur la question de l'intelligence que les Grecs appelaient libérale, il n'y a plus personne. Vous voyez les politiques, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de débat présidentiel, par exemple, mais c'était hallucinant. On vous raconte qu'on est en démocratie, il y a la majorité des Français qui n'ont pas voté, si vous voulez, et on parle de majorité. Ils ont même inventé un terme, la majorité relative. La majorité relative, c'est un nouveau terme, puisque, bon, on vous dit, bon, on est chez les fous. On est absolument chez les fous, et Macron a fait les choses à l'envers, il nous les joue à l'envers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat présidentiel, il s'est fait élire, et puis la magie, c'est qu'après, il a fait une vidéo pour donner son pseudo-programme, et il a dit, puisque j'ai été élu, c'est que mon programme est bon, et vous avez choisi mon programme. Donc vraiment, excusez-moi de rompre le terme, on nous prend pour des cons, et vous avez Philippe Guillaume qui avait écrit son livre « Lettre ouverte à tous les Français qui ne veulent pas être pris que pour des cons », mais ça continue. Ça continue, ça continue. Alors, c'est pour ça que le passage par la franc-maçonnerie est absolument indispensable. Donc, l'alpha pour comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie, c'est de bien réaliser à quel point nous sommes dans un monde à l'envers. Bon, qui parle de démocratie, c'est l'inverse. Il faut toujours inverser ce que dit le président. Et là, on est prêt, ou les politiques, on est prêt du résultat. Bon, et si j'ai lancé ce carême initiatique, il faut comprendre pourquoi je l'ai lancé, c'est que. Effectivement, au départ, le plafond de verre, je le voyais plutôt à la Révolution. Parce que je vous rappelle que l'académicien Harpe, 150 ans avant Orwell, avait bien découvert cette chose hallucinante que le langage révolutionnaire, c'est-à-dire le langage de Macron, le langage qui est au pouvoir, le langage d'où sont sorties toutes les tyrannies, toutes les dictatures, tous les crimes, eh bien, c'est ce langage révolutionnaire qui a vraiment émergé, mais il date même d'avant, à la Révolution. Donc je pensais dévoiler, effectivement, disons que le secret, comme je continuais de le faire sur la Révolution, mais j'ai vu qu'il fallait aller plus loin. Bon, ça c'était la clé. Donc ce qu'il faut bien comprendre, réaliser à quel point tout est exactement à l'inverse. Tout fonctionne à l'inverse. On annonçait il y a quelques jours que le vaccin avait sauvé 20 millions de personnes. Eh bien, il faut tout inverser, tout inverser. Alors une fois qu'on a pris conscience de cette chose qui est ahurissante, parce que comment expliquer qu'un monde tourne à l'envers et tourne quand même? Alors ça, c'est effectivement de la magie. Mais ce qui nous rassure, ce qui me rassure, c'est que déjà le 31 décembre 1794, après la chute de Robespierre, l'académicien Laharpe, qui est bien connu pour son traité de littérature, avait dit c'est un langage qui fait l'inverse de ce qu'il dit, il appelle vertu ce qui est le vice, etc. Donc déjà, et puis en plus, c'est conforté par Orwell. Donc, il est possible qu'un langage dise l'inverse de ce qu'il fait. Alors ça, c'est la clé. Et la découverte que j'ai faite, et puisque vous avez abordé la question, c'est que c'est par un certain nombre d'étapes. Mais il faut bien prendre conscience. La première étape, si vous voulez, c'était au fond le mercredi décembre, je découvre, de manière tout à fait étonnante, que le Si vous voulez, je rappelle que mercredi décembre, c'est le mercredi de la liturgie qui dit « Nous sommes poussière, nous retournons à poussière ». Et là, le monde contemporain ignore totalement cette chose. C'est-à-dire que certains vous disent que nous sommes dans un monde ouvert, qu'il faut être ouvert. J'ai écouté un certain Bernard-Henri Lévy dire « Il ne faut pas être cramoisi, refermé sur soi-même ». Mais notre monde est totalement fermé, puisqu'on ne vous dit pas quel est l'alpha, d'où vous venez, et on ne vous dit pas où vous allez. Bon, au moins le mercredi décembre vous rappelle que vous êtes poussière et que vous retournez poussière. Donc ça rend un petit peu modeste, si vous voulez. Et je m'amuse d'ailleurs quand je vois sur les plateaux télévisés toute cette bande de vaniteux, de prétentieux, évidemment, salariés, mercenaires. Je fais tourner le curseur du temps, je leur donne 10, 20, 30, 40, et après ils se retrouvent dans les EHPAD, et après vous allez. Et ça rend un petit peu modeste. Nous sommes dans la première société qui ne s'intéresse pas à l'au-delà. C'est-à-dire que on s'intéresse qu'à une petite croûte de vie, très courte, bien portant, beau, etc. Bon, alors je reviens donc à cette question de la franc-maçonnerie. Dans ce carême, donc je découvre qu'il y a un parallèle entre la liturgie et la politique, en particulier que le premier tour qui est le dimanche de disons des rameaux, Pâques c'est le 10 avril et le 24, ça va être le deuxième tour. Donc c'est tout à fait étonnant. Et il y a même la reine d'Angleterre qui s'y est mise, puisque elle correspond également à la liturgie. Et donc j'ai eu cette idée, je me suis dit au fond, la France évidemment est un pays qui a été façonné par le catholicisme, bien entendu. Et donc quelles sont les vérités religieuses? Et puis, on met en parallèle quelles sont les vérités, les erreurs ou les mensonges politiques. Et on voit que le carême demande une purge du péché, donc de nos mensonges, de nos défauts. Et c'était le problème de la politique des présidentielles, comment nous purger du plafond de verre. Le mensonge étant, le péché étant le plafond de verre, à sa manière. Et alors, ce qui est étonnant, c'était un défi, et c'est que ça a fonctionné. Et ça continue à fonctionner parce que je n'ai pas terminé, contrairement à ce que je voulais, parce que je vais de découverte en découverte, ce qui n'ont jamais été faites et c'est extrêmement difficile. Et donc, au début, je me suis dit, le but, c'est de purger, de nous purger personnellement. Au plan liturgique, bien entendu, c'est de nos fautes, de nos péchés, si je peux dire, mais en politique, c'est le plafond de verre. Le plafond de verre qui nous empêche d'arriver au ciel de la politique. Et là, j'ai donc nous purger du mensonge personnel. Et là, j'ai donné les trois premières clés. Il faut bien concevoir, et je dis que ce sont les clés d'invincibilité de la théologie dans laquelle nous allons venir, parce que, effectivement, la maçonnerie, je le dis tout de suite pour ceux qui nous écoutent, elle est théologique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une république laïque. Nous sommes dans une république dominée par la théologie. Et comme le disait très bien le célèbre diplomate Talleyrand, il disait que ce qui lui a permis d'être. À accéder à l'excellence de la théologie, je veux dire, la diplomatie, c'est la théologie. La théologie, c'est la science suprême. Quand vous voyez liberté, égalité, fraternité sur les monuments, c'est la théologie. Et ce sont les valeurs suprêmes qui sont interdites aux Français. C'est-à-dire que les Français croient que nous sommes dans la laïcité, évidemment, et donc ils n'accèdent pas aux valeurs desquelles découle le pouvoir. C'est-à-dire que la politique est d'ordre symbolique. C'est-à-dire théologique. Alors, les trois clés fondamentales, évidemment, du départ, le premier degré d'initiation, c'est le diable et le singe de Dieu. Donc, il n'y a que deux cases. Il n'y a pas trois cases. Il y a deux cases. On est d'un côté ou de l'autre. On le verra après. La deuxième chose, c'est que, disons que la magie est divisée en deux blocs. Il y a le bloc magie noire ou magie blanche. Il n'y a pas de troisième. Il n'y a pas de magie crème, chocolat ou crème glacée. Et la troisième, c'est que la grande figure, j'en ai parlé tout à l'heure, d'inversion, c'est l'inversion du diable, de la magie, si vous voulez, et du prince de mensonge. C'est la grande figure qui domine la théologie. Et je le dis déjà en prémisse, c'est que la franc-maçonnerie, évidemment, est un copier-coller de la religion. Donc là, on est à l'aise, on n'est pas complexé, parce que j'y pensais hier par rapport à cette émission. Autrefois, nos ancêtres avaient honte de faire le mal. Maintenant, ils ont honte de faire le bien. Ils ont honte de faire le bien, ils ont honte d'être habillés correctement, de bien parler, de bien se tenir. Donc, c'est bien l'inversion des valeurs. Donc, il faut, quand vous prenez ces charmantes demoiselles qui ont des pantalons Grinch ou je ne sais pas quoi, troués, alors que leur grand-mère, elle ne voulait pas avoir un fil qui dépassait. Donc, on est vraiment dans cette inversion des valeurs. Bon, alors ça, c'était le premier degré d'initiative. Le deuxième, c'est un examen de conscience. Et de nous dire chacun d'entre nous, est-ce que nous sommes du côté du prince du mensonge ou du côté de la vérité? Et ça, c'est la figure théologique, serviable, non serviable. Disons que le diable, Lucifer, étant du côté du non serviable. Et nous voyons actuellement que ce qui domine notre monde contemporain et la politique, c'est de se servir soi-même. Quand vous voyez, si vous voulez, je veux dire, l'appétit pour aller à la gamelle, si vous voulez, des milices, etc., ce n'est pas du tout le service des Français. Ils ont toujours le mot français à la bouche. Mais certainement pas dans leur cœur. Là, c'est la phrase de théologie. Mon nom est sur tes lèvres, mais ton cœur est l'un de moi. C'est ce que. Bon. Et donc, là, on est dans le côté. Ça, c'est vrai. Et qui a un rapport avec la tentation. C'est-à-dire qu'en théologie, ça, c'est la tentation du Christ. Effectivement, adore-moi et tu domineras le monde. Donc, c'est la grande question qui est posée à chacun d'entre nous. Et là, on voit très bien dans la politique, ils sont prêts à se mettre à quatre pattes, évidemment, pour aller vers la gamelle. Donc, c'est tout à fait hallucinant. Alors, il y a une question d'ailleurs qui est abordée, c'est le rôle de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a été évacué dans tout le travail de sape disons, que des lumières, qui sont évidemment les ténèbres. Parce que quand on vous parle des lumières, c'est qu'il s'agit des ténèbres, bien entendu. Ça a été de mettre hors jeu l'homme, si vous voulez, la responsabilité, la conscience de l'homme, pour remplacer par les abstractions. En particulier la loi, et les abstractions, évidemment, derrière les abstractions, vous avez évidemment des manipulateurs. Ce sont les lobbies. C'est-à-dire que, voilà. Et sont, donc là, c'est le.
Juste en aparté, Monsieur Upinski, vous parlez des lumières, parce qu'il y a, quand on discute avec les gens, les lumières, c'était formidable, etc. Mais vous n'avez pas ce point de vue. Qu'est-ce qu'il faut retenir du siècle des lumières? Juste quelques mots en aparté.
Alors, ce qu'on vous dit des Lumières, évidemment, c'est que c'est la fameuse philosophie du XVIIIe siècle, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, etc., qu'on vous présente comme des géants. Ce ne sont pas des géants, ce sont des puces. Des puces qui ne font que répéter. Ce sont des agents anglais, si vous voulez. Bah, actuellement, les lobbies sont à Bruxelles. Bon, on sait quelque chose, maintenant il était en Angleterre. C'est-à-dire que c'est ce sur quoi je suis en train de travailler, c'est un travail très difficile. Mais toutes les idées qu'on nous présente comme le génie français, si vous voulez, c'est Montesquieu, c'est extraordinaire, sont uniquement des agents qui sont allés prendre leurs ordres, bon, c'est dit de manière un peu plus délicate en Angleterre, et qui n'ont fait que traduire les idées anglaises en français. Évidemment, qui ont donné de la grandeur, si vous voulez, de la beauté, qui ont conféré à cette peste des idées anglaises, si j'ose dire, mais nous y reviendrons, la majesté et la beauté de la langue française. Bon, le XVIIIe siècle est la langue de, si je regarde dans le dictionnaire, de l'anglomanie, et même Marie-Antoinette, à la fin, s'est convertie au jardin à l'anglaise. Si et le jardin, l'évolution du jardin à la française vers le jardin à l'anglaise, traduit bien évidemment, cette prise de contrôle par ce qu'on appelle maintenant en anglais le soft power britannique. Et dans mon livre Macron, le président ventriloque, je cite bien au moment de la prise de la Bastille, mais j'y reviendrai, l'aveu de Pitt, qui était celui qui détestait la France, qui disait: Nous avons une autre manière de faire la guerre. Et la guerre, évidemment, c'est la guerre par des agents d'influence, par l'infiltration et par le contrôle, évidemment, d'un pays sans avoir besoin d'être visible par l'armée. Mais donc, ce qui est appelé la philosophie des Lumières, effectivement, c'est tout le sujet de la question, c'est la philosophie maçonnique, tout simplement. C'est les Lumières, parce que, comme je vous disais qu'il n'y a que deux cases, la lumière, la franc-maçonnerie, évidemment, se réclame des Lumières, et comme, effectivement, le dernier évangile de Saint Jean fait qu'évidemment le Christ est la lumière du monde. Donc on a affaire à des contrefacteurs, puisque le diable est le singe de Dieu, et effectivement tout ce qui est maçonnique, il suffit de rentrer dans une loge, de regarder, ça peut se faire même à distance, pour voir évidemment le côté religieux, c'est une singerie de la religion, la franc-maçonnerie. Bon. Mais le singe peut être très habile, c'est-à-dire qu'en copiant les formes, et c'est là la magie, en copiant une forme, eh bien, vous avez la force de cette forme. Voilà. Et ça, je prends qu'un petit exemple que j'ai donné dans mes dernières interventions. Ce qui est tout de même hallucinant, c'est que les chrétiens savent que la petite lumière rouge au-dessus du tabernacle, lorsque l'on rentre dans une église, doit traduire la présence réelle. Et les maçons, évidemment, ont copié, puisque ce sont des copieurs, et ils ont le delta lumineux, ils ont cette petite lumière. Alors, le delta lumineux, les profanes penseront que c'est la Trinité. Et ceux qui sont des initiés, évidemment, et verront que c'est le symbole de la franc-maçonnerie ou du grand architecte, et ou du grand architecte, et du dieu grand architecte, et de la maçonnerie, etc. Mais il faut que cette lumière soit toujours allumée. Donc c'est la présence réelle, copiée, si vous voulez, c'est du copier-coller. Alors, bon, voilà. Alors, donc, le degré d'initiation, donc les lumières, il faut savoir que c'est l'obscurantisme, et les lumières ont attaqué l'obscurantisme, mais les lumières, c'est l'obscurantisme. Ce sont les lumières qui ont complètement éteint le rayonnement de la France, qui ont détruit la France et qui ont porté la France. Alors, c'est le fameux déclin. Ça y est, il y a des personnes qui parlent du déclin, mais personne ne va jusqu'au bout. Le déclin, effectivement, déjà, Voltaire en parlait, le déclin de la France. Le déclin, c'est lorsque, si vous voulez, la lune anglaise cache le soleil français. C'est ça le déclin, c'est la destruction des valeurs françaises pour les remplacer par les antivaleurs anglaises. Pour faire très court, c'est remplacer la création par la prédation, puisque vous savez que l'Angleterre était une île de pirates. Les pirates, en général, avec Drake et des autres, se réfugient dans les îles. Voilà. Et c'est la finance, c'est la puissance de la mer, nous pouvions en parler. Donc le deuxième état d'initiation, degré, c'est de se dire effectivement, nous avons tout, passons tous par ce stade. À un moment donné, nous avons la tentation d'adorer le pouvoir contre de la richesse. Dire serviam, non serviam. Bon. Et nous en avons le spectacle tragique au gouvernement, tous ces gens qui n'ont de cesse de travailler. Alors le troisième degré d'initiation est très important parce que les choses sont énormes. Hein. Il y a des personnes qui cherchent la petite bête dans la maçonnerie, des choses. Non, 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 c'est absolument criant de vérité, c'est simple. Mais la difficulté, c'est de voir ce qui est visible. C'est ce que disait Chirac, plus c'est gros, mieux ça passe. Je prends un exemple, liberté, égalité, fraternité. Les Français passent devant, mais ne se sont jamais posé de questions. Ça leur paraît évident. C'est-à-dire que ce qui domine notre société, c'est ces trois mots. Alors, quand vous passez évidemment devant une église, eh bien, si vous avez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bon, certaines personnes vont peut-être se poser des questions, et encore. Mais dans liberté, égalité, fraternité, c'est ce qui a remplacé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, est devenu au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Donc, c'est vraiment au nom de cette chose-là que tout est fait. Alors, ce qui est très important, c'est qu'on nous parle toujours d'égalité. Ah, l'égalité. Mais l'égalité, évidemment, l'égalité devant la loi, c'est une vaste fumisterie. Parce que ce qu'on préfère, c'est être l'égalité devant son banquier, devant son compte en banque, devant sa richesse, devant sa voiture, etc. Bon, puisque je rappelle qu'il n'y a pas d'égalité devant la loi, puisque pour avoir accès, la loi est censitaire, il faut payer un avocat. Et le meilleur avocat, c'est celui que vous pouvez payer d'une part, et en plus, c'est celui qui connaît le juge. Et ça aide beaucoup, bon, ce genre de truc. Donc, on se moque de nous, mais ça passe toujours. Alors, cette question d'initiation est capitale, parce que dès l'instant où vous considérez qu'il y a une société dont vous avez dit que c'est le clergé de la République, puisque nous sommes en religion. Et s'il y a un temple de la franc-maçonnerie, c'est que nous sommes bien en religion. Le temple caractérise la religion. Eh bien, c'est qu'il y a deux sortes de Français. Il y a l'initié. Et on peut dire le con, bon, c'est-à-dire que le non-initié, c'est le profane. Bon, je vous rappelle que aux mines, il y a une cellule qui définit quels sont les cons et pas les cons parmi les polytechniciens. Les cons sont ceux qui ne marchent pas dans la combine, et puis les autres, évidemment, ce sont des gens très bien. Alors, donc la société française est divisée en profane et initié. Donc déjà, ça devrait être intolérable. C'est une intolérable, si vous voulez, discrimination, démocratie, mais ça gêne personne. Tout le monde sait que les maçons existent, tout le monde sait qu'il y a des initiations, donc ils ont des secrets, ils ne s'en cachent pas, même s'ils disent c'est le secret de Polichinelle. N'empêche qu'il y a un enseignement, il n'y a plus d'enseignement de grammaire, mais il y a encore moins un enseignement de la religion d'État qui permet d'accéder au pouvoir. Bon, il suffit de prendre les statistiques pour voir qu'effectivement, l'égalité devant la loi, eh bien, ce n'est pas la même égalité. Si vous êtes franc-maçon, je pense à Valls et compagnie, vous allez être sur un accélérateur. C'est pour ça qu'il y en a tant. Donc, alors on parle de la parité, n'est-ce pas, homme-femme, mais alors la parité, un homme, une voix, et quelqu'un qui est maçon ne devrait pas être plus avantagé, mais ça n'existe pas. Donc ça, c'est l'aveuglement, c'est l'abêtissement, c'est la crétinisation de tout un peuple, et c'est quand même tout à fait hallucinant. Bon,
Monsieur
alors,
Hubert, on est juste
oui.
là au cœur de la discussion sur les francs-maçons. Pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez préciser aujourd'hui en France, principalement, qui sont les francs-maçons? À quel endroit on les trouve?
Si vous voulez, partout où il y a des lieux de pouvoir, c'est très simple. Si vous voulez, c'est comme on dit que le diable se trouve toujours près des lieux sacrés. Hein, eh bien, vous prenez, je n'ai pas envie de donner les statistiques, je donne quelques chiffres, on pourrait le voir. Mais effectivement, je ne veux pas donner des noms, mais il suffit de prendre parmi les ministres le nombre de francs-maçons. Vous avez, par exemple, d'après ce que je crois savoir, le président Hollande est le premier à être allé dans une loge blanche, si vous voulez, une loge à être reçu. Et Macron a été reçu au Grand Orient de France un an avant son élection. Donc, si vous voulez, il faut, il faut, c'est pour ça que je vous dis, il faut une démarche. Vous allez comprendre, effectivement, que à une époque, on peut dire, je caricature un peu, mais que la sélection se faisait par le latin. Il est évident que quand le langage nécessite la connaissance du latin, qu'est-ce qui réussit à la course? C'est ceux qui courent bien. Qu'est-ce qui réussit dans une société dans laquelle le latin est la langue du savant? Ben, c'est celui qui connaît le latin. Après, il y a eu la sélection par les maths, dont j'ai parlé pendant des années, la sélection par les maths. Et là, on pourrait dire que c'est la sélection par le langage de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire, vous comprendrez bien que si tous ces gens qui se prétendent évidemment d'une très haute moralité, passent tant de temps à se réunir, vous comprenez bien et s'ils se cachent en disant nous sommes persécutés, c'est pour ça que nous nous cachons, etc., tout ça c'est vraiment un grand amusement, c'est parce qu'il y a un pouvoir dans le langage, je l'ai toujours dit, le langage, il y a un pouvoir, le langage mathématique donne un pouvoir, le latin donne un pouvoir, la grammaire donne un pouvoir. Je vous rappelle que Molière disait la grammaire, le fondement des sciences, qui s'impose même au roi et les fait la main haute obéir à ses lois. Et donc, le langage maçonnique, c'est un langage symbolique qui porte un pouvoir. Vous avez la chaîne d'union, vous avez le ciment. Et je vais vous donner un grand secret que j'ai révélé à un maçon qui se disait maçon, mais qui ne le connaissait pas. Je ne dirais pas qui c'est, mais vous pourrez le nommer. Alors, je vais demander, parce qu'il disait qu'il était franc-maçon, s'il savait ce qu'est le damier mosaïque. Je vais vous donner l'exemple de l'esprit franc-maçon. Bon. Parce qu'il est évident que la maçonnerie étant le clergé de la République, de la religion de la République, qui est la religion des droits de l'homme, qui a remplacé les commandements de Dieu, tout ça, nous verrons, eh bien, c'est un ce langage donne un pouvoir sur les crétins qui sont les non-initiés. C'est-à-dire que le français de base, c'est un crétin. C'est un con, bon, c'est évident, dans leur langage. Et eux, d'ailleurs, il y a des noms, des choses qui ont été citées par des hommes politiques, je ne veux pas personnaliser les choses, mais ils se considèrent comme l'aristocratie, évidemment. Ils sont. J'ai connu une femme qui était une serveuse dans un restaurant dont je n'aurai pas le nom, et alors elle était charmante. Elle était gentille, elle s'occupait de tout le monde. Vraiment, c'était charmant. Puis un jour, elle a complètement changé. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Elle était devenue arrogante, cassante, etc. Et je lui ai posé la question et j'ai appris qu'elle était rentrée, qu'elle était devenue rosicrucienne. C'est-à-dire qu'il y avait l'élite, elle appartenait à l'élite, et puis les autres, c'était des insectes qui étaient autour d'elle. Alors je reviens au pavé mosaïque pour vous montrer l'intelligence de l'utilisation de la géométrie. Et là, je n'en suis pas là, mais je dis bien carême initiatique, initiatique à la magie noire et à l'art royal. Là, je m'approche avec une main tremblante, comme dirait l'autre, de l'art royal. Eh bien, le damier mosaïque paraît très simple. Damier mosaïque, vous avez des plaques noires, enfin, c'est un pavé en couleur, comme vous avez dans l'entrée des châteaux ou ailleurs, en marbre ou pas en marbre, avec un carré noir, un carré blanc. Vous voyez, vous avez ce pavement de dalles blanches et noires. Bon.
Est-ce qu'il y a une signification particulière à ce dalmont?
Ben c'est ce que je suis en train de vous dire, mais je vais vous donner qu'une petite partie, parce que dans l'initiation, mais je vais vous donner le béaba, parce que c'est l'entrée. Et alors là, évidemment, on vous explique que le monde est divisé en deux. Il y a noir et blanc, femme et homme, soleil et lune, etc., etc. Il y a le nom et l'antonyme dans le dictionnaire, etc. Bon. Donc ça représente d'une certaine manière cette dualité du monde, le bien, le mal, etc. Bon. Alors ça, c'est fait pour les cons, si je peux dire. Bon. C'est-à-dire, enfin, c'est le premier degré, mais ça peut être utile quand même, de savoir quand même qu'il n'y a que deux cases. Bon. Mais l'initié, où est-ce qu'il est dans ce pavement? C'est-à-dire que on peut dire que c'est la droite et la gauche, la noire et le blanc, vous voyez? C'est la droite et la gauche. C'est le débat démocratique. Il y a droite et la gauche. Mais il n'y a pas autre chose. C'est droite ou gauche, en avant, marche, droite, gauche, en avant, droite, gauche, etc. Bon. Et là, vous commencez à rentrer dans la manipulation et dans la science du pouvoir. Et je vous rappelle que Orwell disait, la conciliation des contraires, c'est l'art de garder le pouvoir éternellement. Alors, les contraires, ce ne sont pas les contradictoires, je vous rappelle. Les contraires, c'est représenté dans le pavé mosaïque par le noir et blanc. C'est-à-dire, on peut dire noir ou blanc, ou droite et gauche, si on commence à rentrer dans la pseudo-politique qui domine le pays depuis le 11 septembre 1789, encore un 11 septembre. Eh bien, là, l'initié, il regarde entre les dalles, noir et blanc. Et il y a quelque chose, même si les deux pavés, noir et blanc, les deux dalles, sont très proches, il y a quelque chose entre. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'interstice qui est entre les deux. Et alors, l'initié, c'est justement celui auquel on apprend à ne pas être mis en boîte. Parce que si vous êtes d'un côté ou de l'autre, vous avez l'étiquette. Si vous êtes de droite, ben, vous ne pouvez plus être de la totalité. Et pour dominer, il faut dominer ensemble. Donc, celui qui va dominer la politique, c'est celui qui sait concilier les contraires. C'est le en même temps, n'est-ce pas? Bon. Le pauvre imbécile qui n'est que d'un côté, il est coincé. Il est dans une boîte, on lui met une étiquette et on l'envoie à la poubelle. C'est comme ça que pensent les initiés. Avec le plus profond mépris des cons. Hein?
Donc vous êtes en train de dire que les initiés se placent sur la jointure du
Évidemment.
pavé noir et du
C'est-à-dire
pavé blanc?
ils ne veulent pas être pris, ils ne doivent pas être identifiables. Je vous dis, nous avons la chance, si je peux dire, d'avoir un président de la République qui dit en même temps, ce n'est pas par hasard. Le en même temps, c'est celui qui est à droite, à gauche en même temps, qui est au-dessus, en bas, c'est celui qui dit que la France, qu'il aime la France, mais que la France a fait un crime contre l'humanité. C'est ça, en même temps, je t'aime, moi non plus, etc. Donc il est insaisissable. C'est le caméléon, si vous voulez. Bon, donc le maçon, on lui apprend à concilier les contraires pour accéder au pouvoir, ce n'est pas un homme de conviction, c'est un homme de manipulation. Et on arrivera à la géométrie. Alors, donc le secret, je vous l'ai dit, premier degré, on indique la dualité. Après, on dit les cons sont divisés en deux, si je peux dire, ils sont ou à droite ou à gauche. Ça, c'est le débat démocratique qui ne peut arriver à rien, parce que c'est forcément la synthèse qui permet de conclure. Ce n'est pas d'être d'un côté ou de l'autre, c'est d'être du bon côté, du côté de la vérité, du bien et d'autres choses. Et donc, mais la deuxième chose qu'il faut apprendre, c'est-à-dire qu'il y a l'initié, le super-initié, le super-super-initié, parce que la franc-maçonnerie, c'est comme les poupées gigognes. C'est-à-dire qu'il y a un degré, et là, je ne vous dirai pas tout, n'est-ce pas? On ne vous dit pas tout aujourd'hui. Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a des degrés? Comment est-ce que les poupées, comment les poupées rentrent-elles les unes dans les autres? Mais donc, je vous dis, je vous décris quelques poupées. Après avoir dit effectivement qu'il faut passer entre les mailles du filet, si vous voulez, c'est important. Mais en même temps, ça permet d'être ni noir ni blanc, de passer entre les deux. Mais en même temps, si je peux dire, ça permet de relier les deux, parce que le liant, le ciment, c'est celui qui lie les deux. Donc, on vous indique là que le liant entre la droite et la gauche dans le débat démocratique, ça va être le langage maçonnique. Voilà un des secrets d'initiation, tandis que vous avez les cons qui cherchent à être sincères, dire moi je suis droite, de gauche, mais ils n'arriveront jamais à rien parce qu'ils n'ont pas le lien. Alors vous posiez la question du rôle de la franc-maçonnerie. Ben, le rôle de la franc-maçonnerie, c'est le rôle du clergé. Vous savez le rôle qu'a joué, je ne vais pas citer Mazarin, je ne vais pas citer Cardinal de Fleury, je ne vais pas citer Richelieu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le langage de la royauté, de droit divin, si je peux dire, était forcément le ciment, si je peux dire, pour reprendre la comparaison, c'était la religion. La franc-maçonnerie, c'est la religion de la République. Donc, c'est pour ça que le critère de sélection, c'était la religion du temps de la royauté, pour faire court, et du temps, la véritable sélection, la véritable école de la République, c'est évidemment la franc-maçonnerie. Ce n'est évidemment pas l'école qui vous apprend, qui vous désapprend à lire et à écrire. Donc il faut crétiniser l'école officielle de la République et il faut effectivement vous sélectionner l'élite, si vous voulez. Et j'ai donné les chiffres. Ce qui est assez frappant, c'est de voir que grosso modo, le nombre de francs-maçons actuellement est un nombre commensurable avec le nombre des religieux ou de la noblesse du temps de la royauté. Parce que ce sont j'ai appelé ça le coefficient suborneur 2%, la nature est ainsi faite qu'il y a un certain nombre qui se retrouve, qui est nécessaire effectivement pour diriger une population, enfin retrouve ces nombres qui sont des constantes. Voilà. Et donc, j'ai répondu, je crois, à votre question. Alors, on a effectivement cette séparation qui apparaît à la Révolution, c'est-à-dire que on parle beaucoup de transparence actuellement, c'est très amusant, si je peux dire. Il n'y a évidemment aucune transparence, puisqu'il y a il y a la transparence comme dans un verre sans teint. Ceux qui sont au-dessus voient les poissons qui sont au-dessous, mais ceux qui les poissons d'au-dessous ne voient pas ce qu'il y a en dehors de l'étang. Voyez. Donc il y a un mépris actuellement qui caractérise d'ailleurs le président Macron, un mépris pour le bétail que nous sommes, qui est inimaginable. Bon. Alors voilà. Donc bon voilà. Donc ce qui est très important. Et alors là, on a une figure de théologie qui est si vous voulez, une figure au mont Tabor, la transfiguration. Enfin, on pourrait parler de ça. Et donc c'est très important que les Français intériorisent le fait qu'ils sont pris pour des cons. Et là, si vous voulez comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie, alors quitte à y rentrer à l'intérieur, je dis ça avec humour, il faut comprendre, il faut avoir la modestie de considérer que les Français sont des cons. Et si on leur donne le nom de citoyen, évidemment, c'est pour les leurrer. Parce que le citoyen, le prétendu citoyen, d'abord, le mot citoyen vient de cité de Rome, donc ce n'est pas un mot qui s'adapte à la situation française, il n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire qu'on le flatte en lui disant qu'il peut choisir le roi, mais il ne peut pas choisir de garder son puisard, par exemple, j'ai un cas précis. Il n'a aucun pouvoir. On lui impose de passer par le tout à l'égout, ce qui va doubler, par exemple, le prix de l'eau et qui en plus va polluer. Parce que je pense à un cas très précis, il faut des champs d'épandage qui vont polluer. Donc, le Français, on lui retire tout pouvoir par son bulletin de vote en lui disant, ah, tu peux choisir le roi. Alors, il y a un petit cinéma avec les sondages pour les Français pensent ci, pensent ça, ils pensent rien du tout. Et ceci dit, il faut que ça soit un esclave. Et là, on va y venir. Alors, le quatrième degré d'initiation, c'est l'initiation de l'esclavage au nom des droits de l'homme. Alors, évidemment, les droits de l'homme, je vous rappelle qu'ils ne sont pas enseignés en classe. Pour ceux qui ont suivi des cours de religion, le catéchisme est enseigné. Bon, Dieu a fait le monde, etc., etc. Il y a un catéchisme. Bon. Mais dans la République, il n'y a pas d'enseignement, effectivement, des droits de l'homme. Il n'y a pas d'enseignement parce que c'est comme sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Là, on est au cœur de l'initiation maçonnique, donc c'est l'axiomatique. Eh bien, les droits de l'homme ne sont pas enseignés. Moi, je n'ai jamais eu cours des droits de l'homme, pas plus d'ailleurs que d'hygiène ou de santé d'ailleurs, on n'a pas. Et parce qu'il faut surtout, c'est ce que disait évidemment Rousseau, il faut surtout que la morale ne soit pas rationnelle. C'est-à-dire que l'enseignement religieux était rationnel, on peut en parler. Il y avait la transparence jusqu'à la Révolution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enseignement secret de la religion. Bon, le catholicisme n'a pas d'enseignement secret, il y a des mystères, c'est vrai, mais ce sont les mêmes mystères pour tout le monde, le mystère de l'incarnation, on peut parler d'autres, la transsubstantiation, mais la République est une religion à mystère. C'est-à-dire qu'il y a les grands prêtres qui ont droit accès aux dogmes, au secret, et les autres, c'est du bétail. Donc c'est la République dite française, en fait, franc-maçonne, la prétendue, c'est le bétail. Il y a les élites d'un côté, exactement l'inverse de ce qui est dit, les hommes naissent égaux et à droit. Alors, il n'y a pas cet enseignement. Alors, comment est-ce qu'on voit que cette initiation à l'esclavage aux droits de l'homme, eh bien, c'est très facile. Il suffit de lire les droits de l'homme. Je vous le dis d'une manière très courte. Alors, au début, on a, si vous voulez, comme dans les ventes publicitaires dans les grandes surfaces, évidemment, ou dans les appartements témoins de l'immobilier, on vous dit, vous êtes libre et égaux. Alors, c'est génial. Alors, le con, excusez-moi, le français con, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, n'est-ce pas? Bon, eh bien, dire, c'est génial, je suis libre et égal. Alors, dans les cours de récréation, vous entendez souvent, ah, oh, mais attendez la République. Donc, tout petit, l'enfant croit qu'il est libre. L'esclave est dopé aux hormones de la liberté, l'égalité. Et il croit avoir compris, parce qu'évidemment, si on dit qu'il est libre, bah, c'est lui qui est libre, donc il dit, ah, ça ne demande pas d'explication. Égal, bon, c'est moi qui définis l'égalité. Bah. Bah, on est arrivé à un degré de crétinisation et d'abêtissement comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire du monde. Tout ça. Bon. Alors, pourquoi? Comment est-ce qu'on démontre que nous sommes esclaves? Bah, c'est très simple. Vous allez plus loin que l'article numéro 1. Bon, je joue court. Vous allez à l'article numéro 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en est mal expressément. Alors déjà, c'est très abstrait. Vous voyez qu'au bac récemment, le mot ludique était incompréhensible. Donc, nous avons affaire à des analphabètes. C'est la première fois qu'un État a une école d'analphabétisation. C'est-à-dire, le rôle de l'éducation nationale, c'est de crétiniser. Lorsqu'il me donne quelques droits de dire ça, c'est j'ai annoncé ça il y a 40 ans, qu'on aurait une crise à 30 ans, et vous avez vu maintenant, les Français sont les derniers à l'OCDE, ça a été dit récemment, dans le classement des maths. Il n'y a plus de maths. Bon, mais ça, c'est l'école est là pour ça. C'est-à-dire que si vous voulez être intelligent, vous rentrez, excusez-moi, en loge, mais si vous allez à l'école, vous resterez un crétin toute votre vie, du moins pour les choses importantes. Mais vous ferez un bon esclave. Un bon esclave, vous aurez un travail, vous obéirez bien, vous faites un bon esclave, vous êtes éduqué pour faire un bon esclave. Mais évidemment pas. Alors, l'article 3 est extrêmement abstrait. Un bachelier actuellement serait incapable d'expliquer. Un certificat d'études de 14-18 le ferait, je pense, parce qu'en plus, il avait une formation religieuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le principe de souveraineté réside essentiellement, donc ça c'est l'essence, on ne va pas rester dans l'essence et la quintessence, dans la nation. C'est-à-dire que la souveraineté dans la nation. Alors, évidemment, c'est une évidence, une fausse évidence, c'est que s'il y a quelqu'un qui est souverain, bon, ben, ça fait partie du tout. Mais nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en est mal expressément. Ça veut dire quoi, Claire? Ça veut dire que personne n'a aucune autorité si la nation ne lui donne pas. La mère de famille n'a aucune autorité. Le père de famille n'a aucune autorité sur ses enfants. Le chanteur n'a aucune autorité pour chanter. Celui qui a un savoir n'a aucune autorité pour enseigner. Donc, ce ne sont que des esclaves. Sauf si la nation dit, toi, je t'autorise à chanter. Toi, je t'autorise à éduquer ton enfant. Mais si tu l'éduques pas, il va aller à la nasse. Mais c'est moi, la nation, qui décide. Alors, c'est qui la nation? Alors, je l'ai appelé dans le désert, nation, nation. Mais nul sinon écho ne répond à ma voix. C'est-à-dire que la nation, c'est évidemment une construction fictive, intellectuelle, et qui n'existe que par celui qui a le pouvoir de parler en son nom. Et qui a le pouvoir de parler en son nom? Eh bien, celui qui a le pouvoir. Donc, l'escroquerie, c'est que les droits de l'homme font exactement l'inverse de leur affichage. Elle affiche la lutte contre l'oppression, la liberté, etc. Et en fait, alors que jusqu'à la Révolution, il y avait plusieurs pouvoirs, il y avait le pouvoir religieux, il y avait les corporations, il y avait les provinces, il y avait le Parlement de Bretagne, il y avait le Parlement de Provence, etc. Il n'y a plus qu'un seul pouvoir, nous le voyons avec Macron, c'est qu'il n'y a plus un seul pouvoir, c'est celui auquel on donne tout le pouvoir de la nation par l'élection actuellement présidentielle. Donc on a effectivement Dans ce quatrième degré d'initiation, c'est une initiation à l'esclavage au nom des droits de l'homme, c'est-à-dire les Français sont des esclaves, mais au nom de la liberté, l'égalité, on est bien dans cette inversion. Alors après, si vous voulez, c'est la contre-attaque, si je peux dire en quelque sorte, c'est l'initiation de la contre-attaque, c'était le dimanche de l'étaré, c'est se réjouir, si vous voulez, c'est de la loi qui tue, donc l'initiation à la loi qui tue. Donc la laïcité qui tue, la laïcité est homicide, évidemment, c'est une destruction de l'âme, de l'intelligence, etc., par la vérité qui libère de la servitude. Alors là, entrons dans la théologie. Bon, là, il faut réfléchir, comme je vous le disais au début, je ne peux pas vous donner tout l'enseignement religieux, tout l'enseignement de la maçonnerie, etc., d'un seul coup, mais je vous remercie de m'inviter. C'est qu'effectivement, une figure qui est très étonnante dans la liturgie catholique, c'est qu'il est bien dit que le Christ nous apporte la loi parfaite de vérité. Et je n'ai jamais vu un prêtre, ni un pape, ni personne dire, attention, il y a deux offres, comme on dit maintenant, deux offres de liberté, la liberté maçonnique et la liberté catholique, puisque je parle actuellement du catholicisme. Alors, la première est très bien décrite dans la liturgie, c'est la fameuse liberté des pharisiens par la loi, c'est ce que dit Rousseau, il dit, vous êtes libre, c'est la loi qui vous rend libre. Alors, c'est génial. C'est-à-dire qu'on est libre d'obéir. Voilà, donc on est encore dans la servitude, tandis qu'effectivement, je le dis très court parce que quand même ça demanderait quelques développements, la liberté au sens religieux, c'est la liberté de notre conscience intérieure. C'est notre conscience. Nous savons que nous ne pouvons pas tout faire, donc il y a quand même une loi naturelle, il y a une loi divine, et c'est notre conscience qui nous donne la liberté, effectivement, d'agir bien. La liberté, ce n'est pas d'agir mal, mais ce n'est pas la loi qui est votée par une bande de turlupins à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un tout petit groupe d'initiés aux ordres des lobbies hein, qui fait la loi. Et la loi, je le dis simplement, du temps de la liberté, comme le disait Machiavel, je vous rappelle que Machiavel, parlant de la France, disait que la France est un pays hérissé de liberté. Et est-ce? La liberté sans pluriel, c'est la dictature de la seule liberté du pouvoir. Bon, donc là, c'est cette contre-attaque que propose la théologie, je vais rentrer, et puis après on tombe effectivement sur le choix de Caïphe entre la vérité et le déicide. C'est-à-dire que celui qui ne choisit pas la vérité est déicide.